Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Au milieu du flot d'une actualité la plupart du temps pas très réjouissante, dans le quotidien des jours parfois monotones ou qu'on le peut trouver trop étroit, difficile quand les temps ne sont pas favorables de cultiver la joie. La joie est une réalité que l'on associe au grand bonheur de l'existence ou aux mille et un plaisirs de la vie. Pourtant, existerait-il des recettes pour cultiver la joie en toutes circonstances, pour mettre toutes les chances de notre côté pour que cette dernière s'invite à temps et à contre-temps dans notre quotidien ? Voilà, alors ce matin pour parler de la joie, tout simplement, avec ce titre d'émission « 5 recettes pour cultiver la joie », je reçois donc la petite sœur Thérèse et Marie-Ève. Vous êtes petite sœur de la communauté de l'Agneau à Toulouse, bonjour.
Bonjour.
À toutes les deux. Marc Picardie, vous êtes président du Collège du scoutisme français en Midi-Pyrénées et vous êtes au téléphone depuis Paris, si je ne me trompe pas, bonjour.
Bonjour.
Et Éric Pillet, vous êtes directeur de l'Arche en Pays Toulousain, bonjour.
Bonjour.
Alors, on a choisi des recettes. Évidemment, il y aurait probablement mille et une recettes pour cultiver la joie. En tout cas, c'est un peu le choix de la rédaction. Cinq recettes pour cultiver la joie. Alors, la première qu'on a choisie, tout simplement, c'est la louange. Alors, évidemment, on est sur une radio chrétienne, donc ça se comprend. Peut-être pour commencer, on aura envie de dire, la joie est pour nous croyants, en fait, est une forme d'injonction de Dieu, d'une certaine manière. J'ai relevé un certain nombre de citations et vous pourrez compléter, sœur Thérèse et Marie-Ève. Alors, entre autres, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, Isaïe 43-21. Voilà, d'autres endroits, j'élèverai mes mains en ton nom, le psaume 63, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, psaume 103. J'imagine que vous en avez trouvé d'autres. Alors, de prime abord, on pourrait dire une chose un peu étrange, c'est que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Comment dire, Dieu ne nous a pas créé, enfin Dieu nous a créé en attendant qu'on le loue, mais c'est que la louange met notre cœur dans des bonnes dispositions. Il l'a pas fait par narcissisme ou par égocentrisme, sœur Marie-Ève.
Dieu est notre créateur et de se tourner vers lui nous met dans cette disposition de le louer, de lui rendre grâce pour toutes les merveilles qu'il opère dans chacune de nos vies et dans la Bible. On voit que on est sans cesse invité à louer parce que Dieu vient sauver son peuple. C'est tout l'annonce de l'Ancien Testament, le salut qui arrive. Et dans nos vies, Dieu vient nous sauver. Et c'est pour ça qu'on est sans cesse appelé à louer, à remercier pour ce salut de ce Dieu qui se fait proche de nous, qui vient vivre auprès de nous.
Alors, vous aviez relevé, vous, d'autres citations bibliques, peut-être vous pouvez en citer quelques-unes. Alors, vous dites qu'évidemment, c'est présent dès l'Ancien Testament. On pourrait peut-être en trouver quelques traces aussi dans le Nouveau, j'imagine. Hein. En tout cas, tout au long de la Bible, Dieu invite en fait l'homme à faire cette espèce de révolution, c'est-à-dire à se tourner vers Dieu pour son plus grand bonheur, plutôt que de tourner un peu soit autour de lui-même, soit autour de ses préoccupations.
Voilà, Pour revenir à des citations bibliques, vous en avez cité une de l'Ancien Testament, mais Saint Paul, dans les Épîtres, nous appelle sans cesse à rendre grâce. Par exemple, dans la première Épître aux Thessaloniciens, il nous dit « Restez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. »
Alors, vous-même, peut-être, vous pouvez dire, vous êtes petite sœur de l'agneau, je sais pas, vous êtes petite sœur de l'agneau depuis combien de temps ?
8 ans.
8 ans. Est-ce que le fait, de louer, c'est-à-dire de prendre ce réflexe, alors j'imagine qu'avec la vie que vous avez, peut-être, vous pouvez nous en profiter, peut-être, pour présenter un peu la communauté de l'agneau, ou nous décrire très rapidement quelle est votre vie. En tout cas, on imagine que, comme toute vie religieuse, c'est une vie qui est structurée autour de la prière, donc cette manière de se tourner vers Dieu. C'est une habitude que vous aviez avant, que vous avez découvert à la communauté de l'agneau, et peut-être vous pouvez dire justement quelle source de joie ça c'est pour vous aujourd'hui.
Alors, je suis d'une famille chrétienne, et donc, et petite, j'ai connu le Seigneur, et toujours une vie de prière régulière. Et c'est vrai qu'en tant que petite sœur, on a plusieurs temps dans la journée consacrés à Dieu, à la prière, et dès le matin, avant le petit déjeuner, on a 2 heures de prière et on commence l'office du matin en faisant un signe sur nos lèvres, en disant « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange », qui sont un verset du psaume 50.
Et c'est source de joie pour vous, tous les jours?
Et alors, voilà, ça me décentre de moi et ça m'ouvre tout de suite au Seigneur. Ça oriente ma journée vers Dieu, d'ouvrir mes yeux à la présence de Dieu.
Sœur Thérèse, peut-être, j'imagine que vous recevez beaucoup de gens, ou en tout cas vous en croisez, parce que je crois que vous avez un certain nombre d'apostolats chez les petits, à la communauté de l'Agneau. Peut-être, avant de vous poser la question, vous pouvez présenter peut-être brièvement la communauté de l'Agneau qui n'est pas forcément connue de tous les auditeurs.
Alors, la communauté de l'Agneau a été reconnue dans l'ordre dominicain en 1983 par le maître général de l'ordre. Et nous sommes ici à Toulouse depuis 1986. Voilà, donc c'est une communauté à la fois contemplative et missionnaire. Et c'est vrai que dans notre vie, nous sommes livrés à la rencontre, surtout donc avec les plus pauvres dans les rues, voilà, les sans-abri.
Puisque donc, vous pouvez expliquer peut-être, vous avez à la fois donc une vie, religieuse,
une vie de prière,
oui, et puis souvent vous partez,
missionnaire.
Vous partez sur les routes. Je crois, comme il est dit dans l'Évangile, presque sans sac ou en tout cas sans nourriture, et puis vous mendiez votre nourriture et vous toquez, vous allez de porte en porte, c'est ça pour...
Voilà, donc nous avons une vie d'abandon à la Providence qui nous permet de tout recevoir de notre Dieu qui est Père. Et ça, c'est une joie quand on peut expérimenter la Providence. Par exemple, vous faites la demande du pain les gens sont heureux de vous donner. Vous voyez des visages qui s'illuminent. Les gens vous disent merci alors que c'est vous qui demandez. C'est quand même étonnant, tout s'inverse. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de joie à donner, plus qu'à recevoir.
Alors, on essaie malgré tout, les joies évidemment se mélangent, hein, mais alors ça, on s'était dit qu'on en parlerait un petit peu après. Peut-être juste pour rester sur la louange, donc ma petite sœur Marie-Ève nous a expliqué un peu cette injonction, d'une certaine manière, cette invitation de Dieu, cette habitude de se tourner vers Dieu qui est source de joie. Vous, les gens qui viennent au monastère, j'imagine que tous n'ont pas les mêmes habitudes de prière que vous. Qu'est-ce que vous leur dites est-ce que vous leur dites que la louange est source de joie et comment vous les aidez peut-être à rentrer dans cette joie?
Ce n'est peut-être pas tellement de dire les choses, mais on espère en tout cas que le fait d'être envoyé, on rayonne de cette joie. Notre mission, c'est vraiment ça, c'est semer la joie de Dieu partout, parce que notre évangile est vraiment bonne nouvelle. Laquelle? C'est celle d'être sauvé, c'est celle d'être aimé inconditionnellement. Voilà, et cette année, c'est l'année de la miséricorde, et en plus, donc, on peut recevoir l'indulgence plénière. C'est un surcroît de cadeaux de la part de notre Dieu. Et voilà, de savoir que, le Seigneur nous aime. Et ça, on va peut-être pas le dire, ça ne se dit pas, mais ça se vit. Et on espère que, humblement, notre vie dit quelque chose de cette joie qu'est Dieu. Dieu est la source de toute joie. Le monde, la société veut faire la fête, mais en fait, de fait, il n'y en a pas. Parce que c'est Dieu la source de toute joie.
Alors vous peut-être pouvez dire votre expérience de la louange. C'est pareil, vous étiez d'une famille très chrétienne, donc vous avez toujours eu l'habitude de prier, de louer, etc. Ou est-ce que la louange c'est quelque chose qui à un moment rentré dans votre vie? Alors on imagine que maintenant elle est installée, hein, mais vous pouvez dire peut-être l'avant ou l'après que ça a été. Et comment est-ce que la louange a contribué à vous mettre dans la joie tout au long de votre vie?
Alors c'est sûr, moi je ne suis pas d'une famille chrétienne. J'ai fait une rencontre tardive du Seigneur. Je n'ai pas été habituée à prier en famille, comme ma petite sœur Marie-Ève, qui est à mes côtés. Mais c'est sûr que dans ma vie, il y a eu un avant et un après. Et la rencontre du Seigneur, je peux vraiment dire que c'est passer de la désespérance à l'espérance, c'est passer de la tristesse à la joie. Ça, il y a un avant et un après.
Et donc,
par la rencontre du Seigneur.
Et après, la louange est rentrée dans votre vie. Enfin, j'imagine, au moment de la rencontre, il y a dû avoir une grande louange dans votre cœur, ça c'est sûr. Mais peut-être après, vous êtes rentré rapidement, comme ça, chez les petites sœurs de l'Agneau, ou vous avez pris cette habitude de louer, de vous le lever, comme décrivait Sœur Marie-Ève, en commençant par proclamer les merveilles de Dieu.
Alors, c'est sûr que la rencontre est inoubliable, est une grande action de grâce, et je n'en rendrai jamais assez grâce dans ma vie de ce privilège, de cette rencontre avec le Seigneur et ensuite d'avoir été appelée. Et au début, tous les gens qui me côtoyaient disaient mais tu es amoureuse, mais dis-nous, mais de qui? Alors vraiment, je débordais de joie, ça c'est sûr. J'avais la tête dans les nuages et le cœur qui battait la chamade. Et ça, c'est la rencontre. Et j'aime bien faire mémoire parce que je trouve que c'est un grand privilège.
Alors, Sœur Marie-Ève, pour finir, avant qu'on fasse une première pause, donc les fruits de la louange, vous les avez décrits, peut-être qu'on peut compléter. Donc, vous dites, la première chose, c'est de cette manière, se recevoir de Dieu, en fait, c'est ce qui met dans la joie, entre guillemets, d'être à une juste place. Quels seraient peut-être les autres fruits de la louange? Et puis, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pratique à nos auditeurs pour essayer d'installer la louange dans leur vie? Parce que tout à chacun n'est pas appelé à rentrer à la communauté de l'agneau.
Alors, pour les fruits de la louange, je dirais que c'est aussi les fruits de l'Esprit-Saint qu'on demande. Et donc ils sont cités aussi dans l'Écriture, dans une lettre aux Galates, qui sont la charité, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur. Tout ça sont les fruits de la louange. Et chacun, avec ce que l'on est, il y a de multiples façons de louer. Mais déjà se rendre grâce, voir chaque jour, voir ce que le Seigneur nous donne de vivre. Déjà il me donne d'être en vie, de me réveiller le matin, d'avoir un toit. Voir toutes les petites choses et tous les signes que le Seigneur envoie aussi à travers des rencontres et le remercier dès qu'on en prend conscience. Et alors on passe de la tristesse à la joie et on reçoit une paix profonde qui ne nous quitte pas et que le Seigneur veut donner. Il veut donner à chacun cette paix et cette joie que rien ne peut enlever malgré tout ce qui est vécu.
Sœur Thérèse, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, c'est quelque chose qui me vient à l'instant, c'est dans l'évangile des 10 lépreux, ils ont 10, les 10 ont été guéris, il n'y a un seul qui revient pour rendre grâce. Et alors Saint Bernard, un père de l'Église, commente et il dit « Nous montrer reconnaissant envers le Seigneur pour les bienfaits reçus, c'est créer en nous un espace pour la grâce » et ainsi nous rendre aptes à recevoir davantage. Seule l'ingratitude fait obstacle en nous au progrès de sa croissance. Voilà. Donnons-nous sans réserve à l'action de grâce, elle nous assurera la faveur de Dieu, seul capable de nous sauver. Voilà, ça ouvre en nous un espace encore plus grand à la grâce. Dire merci. Moi je dis souvent ça, merci Seigneur, et encore, encore.
Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Jamais, je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.
Voilà, ce matin donc nous parlons de la joie en ce vendredi, donc 5 recettes pour cultiver la joie. Si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle que nous sommes avec les petites sœurs Thérèse et Marie-Ève, petites sœurs de la communauté de l'Agneau à Toulouse, Marc Picardie, président du Collège du scoutisme français en Midi-Pyrénées, et Éric Pillet, directeur de l'Arche en Pays Toulousain. Alors, deuxième recette qu'on a sélectionnée, en espérant qu'elle vous parlera, et on n'en doute pas, c'est la joie du don. Alors, c'est un peu vous maintenant qui avez essentiellement la parole, Marc Picardie. Alors, c'est pareil, je commencerai par des passages de l'écriture, et puis je vous laisserai peut-être commenter. Je cite, entre autres, donc en préparant cette émission, je voyais donc ce passage de l'apôtre Paul. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu ?» comme si tu ne l'avais pas reçu. Voilà, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, dans l'évangile selon Saint Matthieu. On pourrait citer aussi, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir dans les actes, acte 20. Marc Picardie, le scoutisme, c'est évidemment le lieu du don, enfin une école du don pour les jeunes. Qu'est-ce que vous diriez de ces passages d'évangile? Est-ce que d'autres vous viennent à l'esprit?
Oui, ben, en fait, se donner, vous avez tout à fait dans le sens du scoutisme. Le don de soi est un sujet au cœur du scoutisme, en effet. Et puis, don et gratuité dans ce que vous avez abordé, je dirais qu'à l'échelle humaine, il n'y a pas forcément de gratuité totale. Il y a toujours une intention, une raison. Par contre, au niveau de Dieu, ben, le don est total pour l'homme, donc par un amour infini, en fait. Et ce don, en fait, à l'échelle humaine, et vous avez... tout à fait vu dans les textes de l'Évangile, que ce don est un acte de transmission que l'on a reçu d'un autre. Alors, par exemple, l'enseignant ou le chef scout qui donne le savoir et l'expérience, ben, qu'il a reçu en fait des autres. Et donc, il transmet quelque chose à quelqu'un qu'il a reçu d'un autre, peut-être du tout autre. La difficulté aujourd'hui dans nos sociétés, c'est que en fait, on passe d'une société primaire où le don est un troc à l'origine, à une société actuelle où le don est contractualisé de multiples façons, en fait. Don du temps à travers l'acte de travail, le contrat de travail, don d'objets ou autres à travers les échanges commerciaux, etc. Tout ça, c'est contractualisé. Alors, ça crée une confusion dans l'authenticité de l'acte qui, au fond, toute la vie, tout ce qu'on fait ne serait finalement qu'un don. Et c'est ce qu'on essaye de voir dans le scoutisme, que tout ce don qui nous est donné, ben, toute chose nous est donnée par Dieu, et tout, y compris notre temps, y compris ce qu'on est. Et donc, se donner à l'autre, c'est tout simplement la notion de service.
Alors, comment vous faites dans ces cas-là pour, comment fait la pédagogie scout pour quand les enfants arrivent au scoutisme, pour rentrer dans cette pédagogie, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, tout simplement, vous les mettez au travail, c'est-à-dire vous les mettez en situation de service, et c'est comme ça qu'ils découvrent cette joie, ou enfin, je sais pas, est-ce que tout ça est réfléchi, est-ce qu'il y a une manière de faire rentrer dans cette joie du don, de se recevoir et de se donner?
En fait, oui, il y a un endroit où finalement cette notion de se donner à l'autre et servir, au fond, c'est l'endroit du jeu. C'est-à-dire toute la pédagogie scout tourne autour du fait de jouer ensemble. Et l'enfant, quand il se met à jouer avec les autres, il est dans cette notion d'équipe, d'être de finalement, alors c'est des jeux, il peut y avoir une compétition, mais c'est jamais une compétition pour celui qui est le meilleur et qui va gagner, c'est une compétition pour celui, pour participer, pour faire, pour voilà. Et c'est cette notion du jeu, du service, voilà, tout simplement. Alors, c'est à la fois dans la pédagogie, et puis après, à tout moment, au niveau du groupe, au niveau des sizaines, enfin des endroits où les enfants sont ensemble, on est toujours au service de l'autre. Puisqu'on est dans la nature, on est dans un endroit où on n'a pas tout le confort, et bien on est bien obligé de se débrouiller et donc de prendre acte qu'il faut servir l'autre, et l'autre va nous servir pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse vivre tout simplement, faire le repas, faire le feu, voilà. Donc il y a le jeu et le lieu jeu et le lieu dans la nature, hein, le jeu comme pédagogie et la nature comme lieu.
D'accord, le jeu, le lieu, est-ce qu'il n'y a pas aussi petit à petit la responsabilité, ou c'est-à-dire le scoutisme, si j'ai bien compris, hein, le scoutisme, c'est aussi petit à petit apprendre justement à se mettre, on va dire pas de manière structurelle, mais à prendre l'habitude d'être au service des autres en ayant soi-même une responsabilité, peut-être ?
Oui, en effet, cet appel à la responsabilité très tôt, puisque dès le plus jeune âge, l'Ortojanet par exemple pour les scouts et guides de France ou dans d'autres, et alors c'est assez étonnant dans tous les groupes, dans tous les mouvements scouts quels qu'ils soient, catholiques, chrétiens ou non chrétiens d'ailleurs, il y a toujours cette notion effectivement de prise de responsabilité très tôt par les jeunes eux-mêmes, qui vont définir leur cap, qui vont définir leur activité d'année avec les chefs. Le chef étant médiateur, bien sûr, il encadre. Alors plus l'enfant est grand, et plus cette notion de participatif, de responsabilisation se met en route. Et il y a même à l'intérieur de chaque unité des responsabilités particulières que les enfants petit à petit assument et au service donc du groupe. Donc c'est par la responsabilisation qu'en fait ils grandissent. Voilà, et ils ont le droit de se tromper aussi, puisque responsabilité, ça veut dire essayer, et ça c'est une grande joie quand c'est une manière d'être en joie. La responsabilité amène, dans un temps, c'est dur, hein, il faut l'assumer, mais en même temps c'est une grande joie, parce que bon, c'est à dire qu'on est capable d'eux, et le plus petit enfant est capable d'eux, et il est porté par cette joie-là.
Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, peut-être comment vous êtes tombé dans le scoutisme, et puis nous dire en quoi ça a été source de joie, en quoi ça a contribué peut-être à installer la joie de manière structurelle dans votre existence?
Oui, alors, je suis tombé par les enfants. J'étais pas scout à l'origine, parce que dans mon village, il n'y avait pas de groupe. Le plus proche était à plus de 80 km, hein, c'était dans les Alpes du Sud, la Haute-Provence. Et donc, c'est quand les enfants, quand on est venu en ville pour le travail, les enfants, en fait, ma femme était scout, elle était guide, exactement. Et donc, les enfants, c'était naturel. Ils ont été tout de suite happé par le scoutisme, et du coup on les a suivis, on est devenu accompagnateur des compagnons, la branche aînée, puis après responsable de groupe, et puis délégué territorial, et voilà. Et l'idée, c'était toujours une notion de service, c'est-à-dire que moi, ce que je fais le lien avec le Christ serviteur, et qui se donne pour le monde et qui appelle, hein, on le voit dans l'évangile de Marc, là, donc chapitre 8, les versets 34 à 35, là, puis Jésus appelle la foule avec ses disciples et dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. Et c'est, pour moi, ça a été cet appel du pour. C'est quel sens ça? Eh bien, il y a toujours un sens au service. Le don et le service ont une finalité commune, c'est la joie. Et en fait, pour moi, la joie est le fruit de cette action, à condition que ce soit pour l'autre. Évidemment, il y a plus de joie à se donner, à servir, qu'à recevoir. On le voit bien, c'est aussi quelque part le service, hein, qui est au cœur du scoutisme, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. On le voit dans Luc, chapitre 1, versets 46 à 48, c'est le cantique de Marie que je trouve extraordinaire. Et Marie dit alors, « De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur, mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. » Eh bien, au niveau des scouts, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le plus petit, il est au service et il devient, il est dans la joie. Et moi qui n'étais pas scout, qui était, j'avais tout à apprendre, et ben, on m'a donné aussi cette envie de servir et puis de mettre au service des autres du mouvement. Et puis on trouve la joie en se donnant, hein, c'est un appel à la générosité. Vous avez tout à l'heure cité Mère Teresa, je crois que oui, c'est juste simplement ça.
Alors Mère Teresa, je l'ai pas cité, hein, mais je le fais. Il y a un livre donc, qui s'appelle La joie du don de Mère Teresa, qu'on peut lire et relire. Entre autres, elle dit la chose suivante, un cœur brûlant d'amour est nécessairement joyeux. Ce n'est pas assez que de donner de l'argent, car l'argent se gagne, ce dont les gens ont besoin, c'est de vos cœurs pour les aimer. Autre question, c'est le pape François récemment, je crois que c'était l'Angélus du 11 octobre 2015, il parlait justement de la joie et entre autres de la joie du don, citant donc ces paroles de Jésus, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais il rappelait à travers la méditation donc de l'évangile du jeune homme riche, alors on peut peut-être rappeler ce que c'est, hein, donc c'est un jeune homme qui vient à Jésus, qui dit qu'en gros il voudrait le suivre et qu'il a fait beaucoup de belles choses jusque-là, et Jésus lui dit de tout quitter et de quitter en l'occurrence sa richesse et il repart triste. Et je cite à dessein cette intervention du pape François parce que le scoutisme prépare au don radical de soi, hein, un jour, qui est de donner sa vie, on va dire, concrètement, dans la vie religieuse, dans la prêtrise, dans le mariage, ou alors par une vie de célibat, on va dire, complètement donnée. Ce don radical, il n'est pas... À vous écouter, c'est très beau, mais c'est pas, on imagine, c'est pas toujours aussi évident. Est-ce que vos scouts rentrent facilement là-dedans? Est-ce que c'est une joie contagieuse? Mais le don radical et total, hein, peut-être un petit peu moins. Est-ce que vous pourriez réagir peut-être sur ces propos du pape François?
Je pense que dans le scoutisme, ce qui est naturel, c'est effectivement de rentrer immédiatement dans le jeu, dans la pédagogie, parce que dès qu'ils ont la chemise et le foulard, ils sont scouts, quels que soient les mouvements. Et donc l'enfant, il calcule pas, il rentre, et quelque part, il est authentique, c'est-à-dire que quand il est scout et quand il est, il ne triche pas. C'est-à-dire que le chef scout, il a entre 18 et 25 ans, il a toute sa vie à construire, pour moi c'est un miracle permanent. Et ils sont là et ils donnent leur temps, et ils donnent quelque chose spontanément, et là ils sont totalement authentiques. Par contre, et donc on peut dire quand même que, oui, spontanément, le scoutisme amène à cette générosité. D'ailleurs, dans la prière scout, on le dit, hein, on demande à Dieu de « apprenez-nous à être généreux », parce que quelque part, c'est spontané, certes, mais en même temps, on est des êtres humains et c'est pas facile. Quand on est fatigué, à la fin d'une marche, à la fin d'un camp, c'est pas facile tout le temps. Hein. Et donc, l'idée, c'est apprendre à recevoir de Dieu et des autres pour se transmettre et servir de données pour l'autre. Ça nous permet de connaître de grandes joies, certes, mais c'est aussi quelque chose qui s'entraîne. Et l'entraînement chez les scouts, par nature, c'est une espèce d'entraînement, une forme d'endroit privilégié où on peut le faire. Bah, on espère, on reste scout toute sa vie, on espère que ça peut déteindre sur la vie de ailleurs, la vie quand on n'est pas scout, quand on n'est pas en situation. Alors, c'est pas facile, hein, non, c'est pas toujours, on est des êtres humains, donc, il y a derrière tout ce qu'il y a d'humanerie, le naturel revient au galop, et voilà. Mais moi j'ai vu des choses extraordinaires, une inondation dans les Pyrénées, où il y a quelques années, où les scouts spontanément, c'est un groupe scout, un des responsables qui dit, allez, au lieu de faire le week-end prévu, organisé, dans des bonnes conditions, allez, on va tous là-bas et on va aider les gens à nettoyer leur village. Donc on est dans un endroit où il y a un chaos total. C'est la misère, hein, c'est vraiment des gens qui ont tout perdu, de la boue partout. Et ces jeunes qui sont là, qui servent, pleins de boue, alors on les aurait obligés, ils n'auraient jamais voulu. Ils y sont allés spontanément, et il y a une joie immense qui se transmet, ils sont heureux, elle se transmet même cet élan de service et de joie, elle est partagée même par les gens qui sont là. Et là on se dit, c'est possible. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose. On pourrait le vivre. Voilà. Alors bien sûr, il n'y a pas des innovations tous les jours, il n'y a pas. voilà. Mais c'est possible.
tremble sous ses pieds. La victoire est assurée. Si nous marchons unis à ses côtés, oh, la foi est notre bouclier. Et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée. Si nous marchons unis à ses côtés, oh, la foi est notre bouclier. Et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ.
Radio Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2. Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, donc, dans Vivante Église, 5 recettes pour cultiver la joie. Si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle que nous sommes donc avec les petites sœurs Thérèse et Marie-Ève, petites sœurs de la communauté de l'Agneau à Toulouse. Marc Picardie, président du Collège du Scoutisme français en Midi-Pyrénées, qui est en direct avec nous depuis Paris. Et Éric Pillet, et non pas Pille, directeur de l'Arche en Pays Toulousain. Pillet, excusez-moi. Alors, Éric, la parole est à vous. Éric Pillet. Alors on pourra présenter l'Arche en Pays Toulousain. Je vous ai invité parce que souvent on imagine que de fréquenter des personnes qui sont en difficulté ou en souffrance, ça peut être ça peut être plombant, comme on dit. À l'Arche, c'est pas tout à fait l'expérience que vous faites. Je commencerai donc en citant évidemment Jean Vanier, donc qui est le fondateur de cette communauté, qui entre autres dans une interview au Pèlerin, une interview récente je crois, interview de 2012, disait la chose suivante. Ici à l'Arche, c'est le mouvement vers le bas. Alors évidemment, tout le travail de Jean Vanier, c'est le travail de vulgarisation auprès du grand public, c'est de dire que justement les personnes, on va dire les pauvres entre guillemets, hein, les personnes fragiles sont au contraire des trésors pour la société et pour tout à chacun, parce que c'est une manière d'entrer dans une certaine joie. Alors il dit la chose suivante. Ici à l'Arche, c'est le mouvement vers le bas. Il n'y a pas de concurrence à l'Arche. C'est un lieu où on entre en relation d'humain à humain avec comme mot-clé la rencontre, et ça met dans la joie. Alors, Éric Pillet, dites-nous un mot peut-être de ce que Jean Vanier a découvert et de ce que vous essayez de vivre à l'Arche.
Alors, ce que Jean Vanier a découvert est que, je crois, tous ceux qui s'engagent à l'Arche ou qui s'approchent de l'Arche peuvent découvrir. C'est-à-dire que, moi, quelque chose qui m'a attiré vers l'Arche, c'est justement c'est la découverte dans des lieux... J'étais étudiant à l'époque, et un lieu où effectivement on sait qu'il y a beaucoup de souffrance, on peut avoir peur même des personnes avec un handicap mental, en être gêné, et de découvrir que malgré cette souffrance. On est dans un lieu, dans une communauté, et je pense que le terme de communauté, on va parler de communion, et les deux sont évidemment très proches, peut s'exprimer énormément de joie. Je suis très frappé. Un des livres que j'avais lu d'ailleurs, qui m'avait ouvert à l'Arche, c'était un livre qui s'appelait Un pari pour la joie, écrit par un jésuite américain qui avait passé quelques mois à l'Arche dans les tout débuts. Et qui exprimait effectivement, qui témoignait de cette joie malgré la souffrance, et dans un lieu où effectivement il y a beaucoup d'angoisse. Et donc, et dans ma communauté à l'Arche en Pays Toulousain, oui, il y a beaucoup d'angoisse. Oui, il y a des gens blessés qui ont pu être humiliés, et pourtant il y a beaucoup de joie. Et c'est ce qui attire. Je suis toujours frappé quand des bénévoles viennent, quand des gens viennent déjeuner avec nous dans notre restaurant. Ils ne s'attendent pas à ça en général. Et cette joie, en réfléchissant un petit peu à cette émission, je crois qu'elle vient de plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. D'une part, elle vient des personnes avec un handicap qui, je crois, recèlent un potentiel de joie étonnant. Il y a une spontanéité, une vérité dans la relation. Il y en a certains qui sont vraiment très désinhibés, mais du coup cette spontanéité s'exprime et dans cette simplicité qui du coup nous interpelle. Et moi, quelque chose que j'aime et dont Jean Vanier témoigne, hein, lorsqu'il dit, moi je suis rentré pour, je me suis engagé avec Raphaël et Philippe, d'abord pour les aider, hein, on parlait du don tout à l'heure, pour être généreux.
Donc c'était en 1964.
En 1964, hein, dans ce petit village de l'Oise de Trolley-Breuil.
Je cite du coup l'article de Perrin, excusez-moi, pour vous aider, hein, il disait, je n'imaginais pas ce que j'allais découvrir. J'étais tellement heureux, le rire était notre mode de communication, je suis devenu un enfant, alors qu'avant j'étais sérieux, j'étais officier et prof de philo.
Tout à fait, et il témoigne beaucoup de ses premiers temps en disant, mais j'étais fou de joie, mais surtout étonné du fait qu'on passait beaucoup de temps à rigoler, et il y a quelque chose d'assez mystérieux finalement là-dedans, et c'était en sens Jovanier, ben, on l'a fait, je crois qu'on l'a fait tous, et moi qui suis, alors oui, je suis quelqu'un de sérieux, enfin,
vous avez l'air, en tout cas.
Ouais, hein. Et c'est vrai que la part d'enfant qui est en moi, et je crois en chacun de nous, est très sollicitée par cette affection qui s'exprime dans une certaine liberté. Je crois qu'on est dans un lieu où on cherche à rendre libre. Et cette liberté des personnes avec un handicap dans la relation, cette simplicité dans la relation, me simplifie, me permet, moi, d'être moi-même, d'accepter aussi peut-être mes failles.
Alors, j'allais venir justement, peut-être que ça vaut le coup, parce que Jean Vanier, évidemment, il a énormément réfléchi, il donne même des retraites à Trolley, hein, depuis plusieurs années, et puis il intervient enfin un peu partout en France ou ailleurs, et ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'il décrit d'une certaine manière un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que donc, cette personne qui accepte de montrer sa vulnérabilité, donc en l'occurrence la personne qui est porteuse d'un handicap, du coup ça m'aide en fait à faire tomber mes défenses.
Oui.
Voilà, et être moi-même simple. C'est-à-dire qu'il y a un effet redoutable, c'est-à-dire tout d'un coup, là, les masques tombent, et on ne peut pas, comment dire, on peut pas se cacher, en fait. On est obligé de mettre sa carapace de côté, d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. Alors, il faut pour cela, justement, un lieu, une communauté qui génère suffisamment de bienveillance et de qualité relationnelle pour justement se permettre de faire tomber un peu ces barrières. J'ai fait l'essentiel de ma carrière en entreprise, hein, et j'ai beaucoup aimé. Mais il est clair que dans le monde on parlait de concurrence tout à l'heure, dans le monde, on va dire, économique, hein, on est très souvent obligé de jouer un personnage, d'essayer de se montrer le plus fort, de finalement cacher ses faiblesses, ses doutes, ses fragilités, parce que il est la norme à laquelle on est
appelé,
oui, c'est ça. Il y a une injonction de normalité, de force, etc., de certitude, de compétitivité. Bon, ceci dans la rencontre avec les personnes avec un handicap, mais je crois dans la rencontre avec des personnes démunies en général, ce jeu-là ne joue plus. Et donc on arrête de jouer ce jeu.
Et du coup, peut-être fort de votre expérience, qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui nous écoutent et qui eux sont dans le monde de l'entreprise, que très peu de gens vivent à l'Arche ou ont des expériences de vie comme ça. C'est...
Oui, mais je crois, comment transposer pour intervenir, ça, hein, pour intervenir de temps en temps dans les entreprises sur ces questions-là, il me semble que tout lieu, alors sans être... je crois que l'expérience qui est faite à l'Arche est une expérience universelle. Hein, et qu'il ne faut pas nécessairement vivre avec des personnes fragiles pour, handicapées pour faire cette expérience, parce que des personnes fragiles, il y en a partout, et y compris dans l'entreprise, y compris chez les grands patrons.
Et
toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette fragilité,
voilà,
et comment on la regarde. Et il y a une phrase qu'on aime bien à l'Arche, qu'on est en train de développer d'ailleurs, d'avoir une vision positive de la fragilité. Et on aime dire que finalement la force des liens que nous créons, elle ne réside pas seulement dans le partage de nos savoirs, de nos compétences, de nos savoir-faire, mais aussi, et nous on dit, et peut-être surtout, hein, dans notre capacité à dire nos fragilités, hein, à les accueillir, à les partager. Et je crois que dans une équipe de travail... j'en ai l'expérience, ne serait-ce que chez nous à l'Arche, le fait de savoir dire « j'en peux plus » ou « là, je ne sais pas faire ». Donc j'ai besoin. Dans le « je ne sais pas faire », il y a le « j'ai besoin de toi ». C'est ça qui renforce les liens entre les hommes. Et donc je crois que dans l'équipe de travail, c'est tout à fait faisable. Et il existe évidemment des lieux de travail où ce type d'alchimie existe. Mais elle est rare. Et en tout cas, c'est toujours un défi, un combat, de faire en sorte que la qualité relationnelle et humaine qu'il y a entre nous puisse générer ce type de lien qui, du coup, va générer de l'efficacité. Hein, et en tout cas, du bien-être et de l'humanité.
En tout cas, quand vous intervenez en entreprise, est-ce que la sauce prend, c'est-à-dire les impressions que ça ouvre des perspectives pour les personnes.
Alors, ça, en tout cas, ça peut éveiller certains. Oui. Enfin, en tout cas, il y a un accueil bienveillant de ce type de parole. Qu'est-ce que ça donne après? Ça m'échappe, ouais. Et je crois que quelquefois, c'est un peu décalé.
Alors, peut-être avant qu'on fasse une dernière pause musicale, vous avez évoqué un moment, sans que je vous le demande, l'esprit d'enfance. Vous disiez, moi qui suis plutôt quelqu'un de sérieux, j'ai d'une certaine manière redécouvert un peu mon âme d'enfant. Alors est-ce que le fruit justement le plus profond de la communion, que tout à chacun peut vivre, d'une manière probablement très imparfaite, en tout cas, et particulièrement peut-être en entreprise, c'est cet esprit d'enfance. Est-ce que vous pouvez nous en redire un mot de ce que vous y vivez à l'Arche et en quoi ça vous met dans une telle joie malgré les années et votre sérieux, vous et d'autres, de redécouvrir cet ouais. enfant en fait.
Pour moi, l'Arche est une bonne terre et je suis témoin de petites choses. Je crois que pour moi, la joie et la communion, c'est d'abord dans les petites choses de la vie et savoir regarder. Et donc, l'esprit d'enfant, c'est savoir s'émerveiller de petites choses. Et les petites choses, ça peut être Jonathan qui est en fauteuil roulant, qui va avec son fauteuil tenir la main de Marie-Noël qui est en grande souffrance. Et Jonathan, va tenir la main et Marie-Noël va se calmer et être témoin de ça, c'est ressentir une joie profonde des relations qu'il peut y avoir. Et évidemment, en tant que chrétien, c'est se dire et c'est d'abord crier vers Dieu sa louange de ces petits moments. Il y en a plein. Et pour ça, c'est quand je dis c'est une bonne terre, c'est que tous les jours, peut-être, oui, il y a des occasions d'être témoin ou de soi-même vivre une relation qui vous met dans la joie. Hein. Alors, encore une fois, l'Arche, c'est pas le paradis. Il y a de la souffrance, il y a des égoïsmes, mais il y a aussi cette chance que nous avons, grâce souvent avec cette capacité d'émerveillement des personnes avec un handicap, de petites choses, d'attention, de croissance aussi. C'est un lieu de grande croissance. Et donc, et puis, on se marre, hein, il y a des choses très drôles.
Alléluia, alléluia, alléluia.
Emmanuel Pella.
Voilà, donc ce matin, cette émission 5 recettes pour cultiver la joie. Alors avant la fin de cette émission, il y a une recette, si on peut appeler ça une recette, en fait, un aspect de la joie que je voulais aborder avec vous. Alors peut-être essentiellement petite sœur Thérèse et Marie-Ève, mais ça n'empêche pas aux autres d'intervenir. C'est la joie parfaite. Alors la joie parfaite, quand on le dit comme ça, en fait, c'est qu'on pense à Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, donc, qui dans les récits de sa vie, Fioretti de sa vie, est rapporté à un moment une conversation avec frère Léon, donc qui est un de ses frères, et qui dit à Saint François, enfin je sais pas s'il tire par la manche ou quoi que ce soit, mais il y a une conversation entre eux où François lui explique quand bien même il parlerait la langue des anges, quand bien même il serait le cours des astres, quand bien même il connaîtrait la vertu des herbes, etc., etc., quand bien même en gros ils auraient toutes les grandes qualités d'apôtre et autres, et ils feraient des merveilles par leur vie, ça serait pas la joie parfaite. Alors frère Léon, comme ça, l'interroge, lui dit, mais qu'est-ce que c'est la joie parfaite? Dites-le-moi, père. Et puis il finit par lui dire, par lui décrire en fait une situation, on serait resté dehors dans la neige et la pluie avec le froid et la faim jusqu'à la nuit. Alors si nous supportons avec patience, sans trouble et sans murmure contre lui, donc une personne qui en gros vous aurait mis dehors alors que vous-même vous êtes dans le froid, tant d'injures, tant de cruauté, tant de rebuffades, si nous pensons avec humilité et charité que ce portier nous connaît véritablement et que Dieu le fait parler contre nous, ô frère Léon, écrit dans ses Fioretti, c'est là la joie parfaite. Alors on a un peu du mal à comprendre, mais malgré tout, on se dit que si c'est dans la tradition de l'Église, il y a là probablement une joie secrète à découvrir. Alors qu'est-ce que c'est? Peut-être, est-ce que vous nous aidez à rentrer là-dedans rapidement, hélas, que cette seule joie parfaite dont parle Saint François? Ça paraît un peu maso de prime abord, c'est Sœur Thérèse.
Il me semble qu'avant tout, Saint François parle d'une expérience vécue, c'est-à-dire que Saint François a été mis à la porte de son ordre. Et l'exemple qu'il donne là, qu'il explique à frère Léon, c'est qu'il revient frapper à la porte de son couvent chéri. Et là, il se trouve un frère qui lui dit « Mais va-t'en, on n'a pas besoin de toi ici, on est tant et tel que vraiment nous n'avons pas besoin de toi ». Il l'insulte même, il le traite de simple guignard. Donc on voit François qui est vraiment mis à la porte.
Alors quelle est sa joie en fait là?
Eh bien sa joie est de rester dans la patience, ne pas être ébranlé, et c'est cette vertu de l'âme qui lui est faite. Voilà, quand on est devant de telles persécutions, on pourrait vraiment s'effondrer. Et là, ce n'est pas le cas. Il a défini comme étant la joie parfaite.
Alors évidemment, tout le monde n'est pas un grand mystique comme Saint François d'Assise, mais peut-être pour finir, ce que ça dit de profond, c'est que l'Évangile, l'Église, le Christ, en fait, nous aide aussi à voir la souffrance autrement, et peut-être à entrevoir qu'au cœur même de la souffrance, alors c'est toujours très délicat de le dire comme ça, mais on peut trouver une forme de joie qui est une manière, ou moins à minima, d'être uni au Christ, ou en tout cas de se sentir rejoint par lui au cœur de la souffrance. Est-ce que vous diriez de ça?
Oui, j'imagine que parmi les gens qui nous écoutent, ils sont là chez eux, beaucoup sont certainement sans travail ou sont dans la maladie.
Pas tous,
en tout cas, certains traversent des épreuves, et l'épreuve est inhérente à notre condition humaine. À un moment donné ou à un autre, on rencontre tous des épreuves. Et alors là, je voudrais vraiment là c'est plus Saint François, mais ce que dit le pape François à propos justement de ce qu'il définit comme la joie parfaite. Alors je le cite, « Nous aussi, comme tous les autres, hommes et femmes, nous avons des difficultés, des combats, des déceptions, des maladies, le déclin des forces dues à la vieillesse. C'est précisément en cela que nous devrions trouver la joie parfaite. Apprendre, apprendre à reconnaître le visage du Christ qui s'est fait en tout semblable à nous, et donc éprouver la joie de nous savoir semblables à lui, par amour pour nous, qui n'a pas refusé de subir la croix. »
Et ben voilà, magnifique
la
conclusion.
La joie et la croix, ça marche ensemble.
On refera une émission sur la joie parfaite, parce que c'était trop court. Merci beaucoup à tous nos invités d'être venus nous parler de la joie. Voilà pour ce numéro d'Équilibriste, mais qui, je l'espère, vous a intéressé, chers auditeurs. En tout cas, moi, c'était le cas. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.